Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 16 avril 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention dans la dernière semaine?
Bien, il y en a plusieurs. On a certainement une embellie sur les marchés boursiers. Ça va quand même beaucoup mieux. La volatilité demeure présente. Mais cette semaine, depuis donc mercredi dernier, là, le TSX a remonté de 6,9%. Le S&P 500 a remonté de 8,3% et le Nasdaq de 10,2%. Ça, c'est des rendements en une semaine. Comme quoi, tu sais, quand on vend son portefeuille, ça peut virer de bord assez rapidement. Puis, tu sais, si on n'a pas gagné 8-10%, c'est le rendement d'une année au complet qui s'est réalisé en une seule semaine. Donc, c'est les bourses, là, ils réagissent quand même très rapidement. Ceci dit, donc, on est bien heureux que ça remonte cette semaine, mais par rapport au sommet de la fin janvier, le TSX demeure en baisse de 6,8%, le S&P 500 est en baisse de 12% et le Nasdaq demeure en baisse de 16,7%. Donc, on va quand même pas juste mettre des lunettes roses, là, on demeure en baisse année à jour aussi. Et durant le mois d'avril, on parle d'une baisse d'environ 3% du début du mois. Donc, quand même, on sent un certain vent de changement. D'où vient ce vent de changement-là? Ben, une des mesures de risque ou de volatilité dans le marché, c'est un indice qui s'appelle le VIX, qui est un indice là, qui mesure la volatilité intégrée dans le prix des options d'achat sur les marchés. On est présentement à un niveau de 31. Plus le VIX est élevé, plus la volatilité perçue est élevée. Typiquement, là, quand tout va bien, puis tu sais, il n'y a rien de spécial, le VIX est entre 14 et 18. On a fait un sommet à 60 là, il y a une semaine. Donc là, on est retombé à 31, donc on a quand même une baisse significative. Durant la COVID, c'était monté à 85. Durant la crise de 2008, c'était monté à 96. On est à 31, donc on est quand même passablement plus bas que les sommets. Les taux d'intérêt ont rebaissé un petit peu au Canada à 3,10. Même chose aux États-Unis, on avait fait un sommet à 4,58 sur les 10 ans, on est à 4,32. Le dollar canadien, là, pour moi, c'est la surprise là, des dernières semaines, c'est le dollar canadien qui continue d'augmenter à 0,7184, donc 71,8 cents américains pour un dollar canadien. Aujourd'hui, donc la Banque du Canada devrait annoncer sa politique monétaire. Donc, est-ce qu'elle va ou non baisser les taux? Les avis sont partagés, tout comme les chances du Canadien de faire les séries. C'est à peu près 50% de chances d'une baisse de taux. Et selon les sites d'experts, c'est 49% des chances du Canadien de faire les séries éliminatoires cette année. Donc, on se croise les doigts pour ça.
Dans les dernières... Et tu suis les deux choses de très proche,
on les suit
Martin.
Les deux de proche. Et dans les dernières nouvelles, là, donc comme quoi c'est aussi quand même difficile de prédire là, qu'est-ce qui se passe quotidiennement à la bourse. Ben hier, Nvidia a annoncé... Nvidia, on sait, c'est l'entreprise là, qui fabrique les puces électroniques pour l'intelligence artificielle. Ils ont annoncé une charge extraordinaire de 5 milliards de dollars en raison des politiques. Donc, il y a des restrictions puis des tarifs qui ont été mis en place pour exporter les puces électroniques H20, là, qui était éligible pour exporter vers la Chine, une taxe supplémentaire, ça leur coûte un petit 5 milliards de dollars supplémentaires. Donc, le titre, évidemment, baisse un petit peu ce matin, là, un 5-7%. C'est quand même une des grandes entreprises du Nasdaq dans le secteur des technologies, donc ça a un petit peu un effet d'entraînement là, sur les autres titres du secteur. Et petite note, j'ai oublié de le mentionner la semaine passée, mais pour ceux qui veulent savoir leur limite de cotisation au CELI, finalement, là, habituellement, c'est plus vers la fin février, là, mais depuis une semaine, le chiffre est à jour sur le site de l'Agence du revenu. Donc, allez visiter mon dossier sur l'Agence du revenu du Canada. Le chiffre que vous voyez pour les CELI, il est à jour en date du 1er janvier 2025.
Bien, merci beaucoup, Martin. Et encore une fois, on le répète, on ne peut pas faire d'anticipation de marché. Donc, on reste bien investi, bien ouais. Diversifié. Actuellement, il y a beaucoup d'économistes qui parlent d'une possible récession, tant au Canada qu'aux États-Unis. Le mot évoque vraiment des sentiments d'inquiétude, des images d'immeubles commerciaux avec un enseigne qui dit « à louer » et des pertes d'emploi. Mais qu'est-ce réellement une récession? Et comment est-ce qu'on peut préparer notre portefeuille pour un tel événement? On sait que vous êtes plusieurs à déjà avoir vécu à travers plusieurs récessions, mais on oublie. Donc aujourd'hui, Martin et moi tenterons de démystifier et de vous rassurer sur le sujet des récessions. Donc, Martin, quels sont les signaux en général de risque de récession?
Bien, d'abord, une récession, c'est une baisse du produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs. Donc, ça, c'est la définition technique d'une récession. Souvent, là, les signaux annonciateurs, on va voir une baisse de la consommation. Donc, les consommateurs là, vont réduire leurs dépenses pour essayer un petit peu là, de mettre de l'argent de côté en prévision des jours plus difficiles. On va constater une hausse du taux de chômage, un ralentissement des investissements des entreprises, donc moins d'ouverture de nouvelles nouvelles manufactures, par exemple. Baisse des profits des entreprises. Donc, évidemment, si les consommateurs achètent moins de produits, ben les entreprises font moins de bénéfices. Et on va constater une chute des marchés boursiers. Donc, ça, c'est les principaux indicateurs là, qui vont démontrer qu'une récession est en cours. Baisse de consommation, on a annoncé une hausse de la consommation de 6,7% aux États-Unis à la dernière lecture. Ceci dit, est-ce que c'est de la consommation des prochains 2-3 mois qu'on a tiré de l'avant en prévision des tarifs? Possiblement. Donc, si c'est le cas, ben si j'ai acheté plus ce mois-ci, en prévision que ça va coûter plus cher le mois prochain, probablement je vais acheter moins le mois prochain puis le mois suivant. Donc ça, il y a un certain risque là. Et du côté du taux de chômage au Canada, on est à 6,1. On est en hausse un petit peu depuis quelques mois. Aux États-Unis, 4,1. Donc quand même très bas le taux de chômage, mais le bas c'était 3,5. Donc c'est quand même une légère hausse du taux de chômage. Donc, ça donne un petit peu une idée là, quels sont les signaux. Oui, il y a des signaux. Là, on est certainement au jaune, là, clairement.
C'est pas confortable. Quelles sont les causes actuelles de récession?
Donc, on sait qu'en raison de l'inflation, donc quand l'inflation est élevée, ça met un peu un choc sur l'économie. La réponse à l'inflation élevée, bien, la Banque centrale va augmenter les taux, ce qu'elle a fait donc en 2022. Et donc, quand la Banque centrale augmente les taux, bien, ça coûte plus cher à emprunter, d'une part, puis aussi, ça l'incite à économiser. Hein? Si j'ai 5-6% sur un placement garanti à la banque, ça se peut que ça me tente de mettre des placements au lieu de dépenser mon argent. Donc, les taux d'intérêt élevés vont réduire la consommation. On a parlé, là, pourquoi est-ce qu'on baisse la consommation? Bien, entre autres, parce que les taux d'intérêt sont élevés. Pourquoi les taux d'intérêt sont élevés? Parce que l'inflation était élevée et persistante. L'endettement élevé aussi, donc les taux d'endettement des gouvernements et des citoyens. Aux États-Unis, le taux d'endettement personnel est relativement bien là, depuis la crise financière. Ils ont fait vraiment beaucoup d'améliorations. Au Canada, on est quand même passablement endetté, mais les baisses de taux, donc on sait qu'au Canada, on a baissé les taux beaucoup plus qu'aux États-Unis pour un petit peu là, lâcher du lest puis donner de la chance aux consommateurs, entre autres ceux qui ont des hypothèques à taux variable ou qui devaient renouveler leur taux hypothécaire, ça leur donne un petit peu de chance. Et la contraction du crédit, donc les banques là, sont pas dans la business de prêter de l'argent puis de pas se faire repayer. Là, donc quand ils perçoivent une économie qui ralentisse, les conditions de crédit pour être approuvées pour un prêt, ça peut devenir plus compliqué. Là, c'est pas statique dans le temps. Les banques vont ajuster leurs conditions de crédit en fonction du contexte. Et ben si elles perçoivent que l'économie risque de ralentir, ça se peut qu'elles soient un petit peu plus restreignantes là, sur les conditions. Puis évidemment, ben, les tensions géopolitiques qui mettent une pression sur les chaînes d'approvisionnement. On a parlé de la guerre en Ukraine. La guerre des tarifs, là, c'est une guerre pareille, là, même si c'est pas avec des armes, c'est avec des tarifs, mais c'est une guerre pareille. Et ça met des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. Et ça, certainement, ça peut entraîner là, une certaine récession.
Et quels sont les impacts d'une récession sur les placements?
Bon, ben ça, c'est assez intéressant parce que on a l'impression que, bon, on va avoir une récession dans X temps, donc mes placements vont baisser quand la récession va commencer. Puis c'est pas vraiment ça qui arrive. Donc, à la bourse, oui, une récession, ça entraîne une augmentation de la volatilité. Les entreprises font moins de bénéfices, donc la valeur de leurs actions a tendance à baisser. Puis il y a certains secteurs cycliques, les industries, la consommation discrétionnaire, les matériaux, par exemple, comme les mines et tout ça, ça peut avoir un impact un peu plus prononcé. Par contre, quand on regarde là, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans les 11 dernières récessions depuis les années 50, la réalité, c'est que durant la récession, la bourse, elle baisse pas. La bourse, elle baisse avant la récession. Et généralement, le sommet se fait plusieurs mois avant le début de la récession et le creux du marché est atteint quelques mois après le début de la récession. Et durant la récession, alors que tout va mal, la bourse est déjà en train de récupérer. La baisse moyenne au cours des 11 dernières récessions, ça a été moins 27 %. La semaine passée, on était rendu à moins 22 sur le S&P 500. On peut penser qu'on avait certainement un bon bout de la baisse de déjà subi derrière nous. Alors, quel est le risque dans le futur? Bien, probablement moindre. On ne le sait pas, mais probablement moindre statistiquement. Puis, la moyenne de moins 27 inclut des baisses en 2001 de 49 % puis durant la crise financière, 57 % Durant la récession de 73-75, moins 48 %. Ça, c'est les extrêmes. Donc, la moyenne peut être peut-être un petit peu moins.
Mais puis la réalité, c'est qu'un portefeuille, concrètement, n'est pas composé juste d'actions en bourse.
Exact. Donc, ça, c'est les rendements moyens du S&P 500. Donc, oui. Si j'ai un portefeuille diversifié, alors qu'est-ce qui arrive généralement durant une récession? Bien, les banques centrales vont vouloir aider l'économie en abaissant les taux d'intérêt. Quel est l'impact d'une baisse des taux d'intérêt sur mon portefeuille obligataire? Généralement, ça a un impact positif, ça fait augmenter la valeur de mes obligations. Donc, si je prends mon bout d'action qui est à la baisse, mon marché obligataire qui est à la hausse, mon portefeuille va probablement avoir un impact moindre que les chiffres qu'on vient de mentionner. Sur l'immobilier, on va penser quand même s'il y a une récession, il peut y avoir une hausse du défaut de paiement là, sur les hypothèques, un certain ralentissement du marché immobilier. Donc, tu sais, il y a quand même un enjeu de d'offre et de demande. Là, si il y a plus d'offres pour acheter des maisons que de maisons disponibles. Mais quand même, s'il y a une récession, peut-être que les gens vont attendre avant de déménager puis d'en acheter une plus grosse. Fait que ça peut avoir un impact sur le marché immobilier. Il y a certains secteurs qui tendent à mieux faire durant les récessions, la santé, la consommation de base. Par exemple, les compagnies d'alcool, des fois, performent bien durant les récessions. On peut penser que les gens noient un peu leur peine, mais généralement, c'est des secteurs qui se comportent relativement bien durant les récessions. Tu sais, toujours avoir un petit peu d'encaisse, c'est pas mauvais non plus. Je le mentionne souvent, là, on peut subir une baisse du marché. On peut même ne pas l'éviter, cette baisse du marché-là, mais on peut aussi essayer d'en profiter. Comment on en profite? Bien, pendant que ça baisse, bien, il faut se permettre d'acheter à rabais. Il faut oser. Puis si on a un petit peu de liquidité, bien, ça nous donne des munitions au sec, si on veut, pour profiter de baisse de certaines actions.
Là, tu rentres dans notre autre question. Ouais. Déjà, t'es excité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer?
Donc, vraiment, il faut pas... tu sais, quand on est dans la baisse du marché, il est trop tard, hein? Tu sais, c'est avant qu'il faut se préparer. Donc, tu sais, je mentionne la peur ou la peur de manquer le bateau, c'est la même peur. Hein? Donc, bien souvent, quand tout va bien, les gens ont peur de manquer le bateau puis ils veulent faire des rendements excédentaires puis ils veulent, tu sais, investir. La tolérance au risque est toujours élevée quand ça va bien. C'est quand qu'on se fait puncher sa dent en face que ça va moins bien. Puis là, soudainement, la tolérance au risque, elle disparaît pendant qu'on subit le risque. Donc, on devrait bien diversifier son portefeuille. Même un investisseur avec des objectifs de croissance à long terme tolérant au risque peut très bien détenir un 5, 10, 15, 20 % d'obligations dans un portefeuille et quand il y a des baisses, vendre cette portion-là pour acheter des actions. Favoriser les titres de qualité, ça, on essaie de le faire tout le temps. Là, on évite les secteurs là, volatiles puis spéculatifs. On veut des business, des entreprises qui traversent les récessions. Puis vraiment, on surveille sa tolérance au risque. Là. Il faut vraiment faire... la tolérance au risque, elle ne devrait pas changer dans le temps. Là. C'est pas quand ça va bien, je suis tolérant, puis quand ça va mal, je suis plus tolérant. Là. Ça marche pas. Là. C'est quelle
image? Et c'est pour ça, souvent, je répète aux clients quand je leur parle, si vous ne dormez plus, appelez-nous.
Oui, exact. Puis, donc, il faut se garder une réserve de liquidité pour les imprévus, surtout pour les gens retraités en décaissement. On veut s'assurer d'avoir un certain montant d'argent de disponible pour les prochains décaissements des 6, 12, 18 prochains mois. Puis pensez à long terme, on investit pour 10, 20, 30, 40 ans. Même les nouveaux retraités, là, vous en avez pour 15, 20 ans à la retraite. Donc, vous allez traverser 2-3 récessions, c'est correct. Là. Restez investi, on a du long terme devant nous.
Puis si moi, je me ferme les yeux puis je pense au passé, je me rappelle des récessions qu'on a vécues. Je me rappelle de marcher sur la rue Sainte-Catherine puis d'avoir vu des signes alloués dans les commerces. Puis ouais. J'étais plus jeune dans le temps, mais j'étais inquiète et ça l'a passé.
Ben oui, ça a passé le temps.
Qu'est-ce que les gouvernements et les banques centrales peuvent faire pour éviter une récession?
Ben, c'est difficile d'éviter la récession, là. Donc, tu sais, oui, elles essaient. Leur objectif, c'est qu'il n'y en ait jamais. La réalité, ouais. c'est qu'il va toujours avoir un certain cycle. Donc, on a mentionné les baisses de taux. Donc, ajuster la politique monétaire. Mais il n'y a pas que les taux d'intérêt. Il y a des mesures quantitatives qui peuvent être prises. C'est quoi, ça, des mesures quantitatives? Donc, la Banque centrale peut venir directement intervenir sur les marchés. Donc, acheter des obligations ou vendre des obligations. Donc, la Banque centrale va dicter le taux à un jour. Mais les taux des obligations 5 ans, 10 ans, 30 ans, c'est le marché qui le dicte. Donc, s'il y a plein de vendeurs, ben les prix des obligations baissent, les taux montent. La Banque centrale, elle veut pas ça. Elle devient un acheteur pour supporter les prix. Donc, on peut avoir aussi des politiques fiscales de soutien. Donc, les gouvernements peuvent adopter des politiques pour aider, donc offrir des subventions, par exemple, baisser les impôts, de l'aide directe, des garanties de prêt, on a déjà vu ça. Donc, tu sais, des fois, 10 ans après, on va venir juger la décision du gouvernement parce que tel investissement n'a pas bien fonctionné, mais il faut juger de la décision au moment où elle a été prise, puis des fois, c'était pour supporter l'économie en général, et c'est le rôle du gouvernement de le faire un peu. On veut renforcer la confiance des entreprises et des consommateurs. Ben, qu'est-ce qui fait qu'on a plus confiance? Ben, c'est quand il y a une stabilité politique et économique. On peut dire que là, j'ai mis une petite étoile à côté de celle-là. C'est celle-là qui nous fait mal actuellement. C'est cette incertitude face aux politiques changeantes. C'est pas les politiques. Le problème, c'est qu'elles sont changeantes d'une semaine à l'autre. Et c'est difficile pour les entreprises et les consommateurs d'avoir confiance. Donc, il y a quand même des choses là, que les gouvernements peuvent faire, d'être clairs dans les communications, de s'assurer là, d'offrir le soutien puis les crédits appropriés. On veut aussi diversifier l'économie puis l'énergie. Donc, tu sais, il faut s'assurer que notre économie soit résiliente dans le temps. Ça ne va pas régler le problème de la récession présente, mais ça peut aider à prévenir les prochaines récessions si on a une économie qui est bien diversifiée, qui n'est pas dépendante d'un seul client, qui a des sources d'énergie diversifiées. Donc, tu sais, si par exemple, on a une économie très reliée au pétrole, on a vu ça dans les années 70, il y a eu un embargo sur le pétrole, ça a créé une récession monstre à ce moment-là parce que les prix de l'énergie ont monté beaucoup. Donc, ça prend une certaine indépendance énergétique. Mesures structurelles à long terme, donc on peut réformer le marché du travail, améliorer la flexibilité, donner des programmes de formation, ainsi de suite. Réduction des risques à l'échelle globale, ben comment on peut prévenir les crises financières mondiales? Ben on a les banques centrales internationales qui coopèrent entre elles. On l'a vu beaucoup en 2007-2008 là durant la crise financière. Les banques centrales se sont beaucoup échangées d'informations pour essayer de collaborer ensemble. Puis en bout de ligne, ça a fonctionné. T'sais, on a évité ce qui était anticipé comme étant la pire crise économique depuis les années 30. Finalement, on s'en est sorti, somme toute, relativement bien quelques années plus tard.
Donc, bien qu'il soit difficile d'éviter une récession, la préparation et la mise en place de politiques adéquates peuvent permettre de réduire son impact. Donc, ouais. ça, on a vraiment vu dans qu'est-ce que tu as dit. C'est sûr que la clé réside dans la flexibilité économique. On en voit un peu. La confiance et une gestion prudente des risques. Les gouvernements et les banques centrales ont plusieurs outils, comme tu as tout mentionné, Martin, à leur disposition pour atténuer la durée et la gravité d'une récession. Cependant, et ça c'est important de comprendre, une récession partielle ou temporaire reste une possibilité dans le cycle économique naturel.
C'est inévitable.
Oui. Donc pour les investisseurs, L'objectif, puis on le dit, puis on le redit, puis on va le redire plusieurs fois, c'est de diversifier leurs placements, d'être attentif aux tendances économiques. Et ça, c'est notre job, toi et moi, et de ne pas paniquer pendant des périodes de
volatilité. On va passer à travers.
Exactement. Donc, merci beaucoup, Martin. Pour tous nos clients et partenaires, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. S'il vous plaît, communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.